Chers amis, on vient de retrouver dans le désert du Sinaï un parchemin épargné par le temps. Découverte d'autant plus importante qu'il s'agit d'une lettre adressée à Jésus de Nazareth au sujet du choix de ses 12 disciples. L'expéditeur en est l'agence Jordan Invest Conseil, très réputée à l'époque pour les audits et les analyses d'entreprise. J'ai la chance d'avoir une copie de cette lettre, je vous en donne lecture. Monsieur Christ Jésus, menuiserie Charpentage, Joseph S.A., 98012 Nazareth. Cher Monsieur Christ, merci de nous avoir confié les curriculum vitae des 12 hommes que vous avez choisis pour leur confier des postes à responsabilité dans votre nouvelle entreprise. Tous ont subi une série de tests psychologiques, les résultats ont été traités par ordinateur, et pour chacun, nous avons en outre organisé un entretien individuel personnalisé avec notre psychologue d'entreprise et consultant en aptitude pour le ministère. Notre cabinet est arrivé à la conclusion que la plupart de vos candidats manquent d'expérience, qu'ils n'ont guère de formation, peu d'aptitude pour le genre d'entreprise dans laquelle vous comptez vous lancer. En outre, ils n'ont pas l'esprit d'équipe. Nous vous recommandons donc de continuer vos recherches en vue de découvrir d'autres candidats qui aient de l'expérience dans la gestion des affaires et qui aient prouvé leurs compétences. Simon Pierre, notamment, est un instable émotionnel, en proie à de fréquentes sautes d'humeur. André n'a vraiment aucun don pour assumer des responsabilités. Les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel au-dessus du dévouement dû à la société. Thomas a tendance à discutailler, présente des risques certains à la dépression chronique, ce qui ne pourrait que freiner l'enthousiasme de votre équipe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la Grande Commission de Jérusalem pour l'honnêteté dans les affaires. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée ont indéniablement une tendance à la radicalisation et tous deux ont atteint un score élevé sur l'échelle maniaco-dépressive. Toutefois, nous nous plaisons à relever qu'un des candidats a de grandes possibilités. Il est capable, imaginatif, il a le contact facile, un sens développé des affaires. De plus, et c'est important, il ne manque pas de relations avec les personnalités haut placées. Il s'agit de Judas Iscariote. Nous vous conseillons de le prendre comme administrateur et bras droit. Il est motivé, ambitieux, il n'a pas peur des responsabilités. Les autres profils ne souffrent aucun commentaire, hélas. Par ailleurs, au vu de la médiocrité de votre liste de cadres, nous sommes au regret de vous informer que l'agence Jobard & Bourse vient de dégrader la note de votre équipe, qui passe désormais à AA-. Nous espérons que l'annonce du choix de Judas comme administrateur fera remonter cette note. Au pire, la Banque Centrale Européenne se fera un plaisir de racheter vos dettes d'entreprise, le cas échéant. Tout en vous souhaitant beaucoup de succès dans vos projets, nous vous adressons, cher Monsieur Chris, nos meilleures salutations. Pour Jordan Invest Conseil, Jacob Objectif, analyste visionnaire. Vous l'aurez compris, chers amis, il s'agit d'une lettre humoristique qui se balade sur Internet. Mais au-delà de l'humour, cette analyse rigoureuse selon les standards de notre époque vient nous interroger quelque peu. L'entreprise de Jésus, selon nos critères de réussite actuels, était vouée à l'échec. Ils étaient 12, dont la plupart pas du tout aptes à la tâche. Leur maître est mort crucifié. Celui dont on pourrait penser qu'il était le plus rigoureux de la bande, Judas, l'a vendu pour 30 deniers. Cette histoire ne pouvait pas survivre plus de quelques années après la mort de Jésus. Là-dessus, aujourd'hui, nous sommes 2 milliards dans le monde et regardez, cette chapelle est pleine à craquer. La religion la plus importante et de loin sur la planète, le christianisme. Pourtant, avant Jésus, le bouddhisme, le judaïsme, l'hindouisme existaient depuis des milliers d'années. N'y a-t-il pas matière à reconnaître, par ce seul fait-là, si l'on est rationnel jusqu'au bout des ongles, qu'il y a peut-être, éventuellement, à la rigueur, quelque chose qui nous dépasse? Le fait est que notre Seigneur n'a pas choisi les meilleurs pour s'entourer. Nous l'entendions dans l'Évangile, mais aussi dans la première lecture, pour avertir Ninive. Jadis, Dieu avait choisi Jonas, un homme dont on ne sait absolument rien des qualités éventuelles pour parler devant les autres. La deuxième lecture est signé d'une figure pire encore. Parce qu'imaginez-vous bien que pour convertir les païens, Dieu a choisi Paul, c'est-à-dire un païen, et pas n'importe quel païen, celui qui persécutait les chrétiens, justement. C'est comme si vous preniez un terroriste islamiste pour former les futurs caricaturistes. Ça revient au même. Extraordinaire de la part de Dieu. Il a choisi celui, justement, qui persécutait, qui tuait des chrétiens. C'est lui qui allait devenir Paul et qu'on lirait 2000 ans plus tard, ici, dans cette chapelle. Avouez qu'on aurait quand même pu trouver un personnage plus sûr, selon nos critères de sélection. Et pourtant, Paul se révélera un homme remarquable pour annoncer la bonne nouvelle. Tout ça pour dire quoi, aujourd'hui ? Que Dieu nous choisit, chacune, chacun, avec nos qualités, certainement, mais avec aussi tous nos défauts. Et si vous êtes comme moi, ils sont nombreux. Il nous choisit avec nos colères, avec nos doutes, avec nos mauvais jours, nos immenses traits d'humanité qui font de nous des personnes parfaitement imparfaites. Il nous entend déjà lui dire « Seigneur, pas moi, attends, je suis déjà incapable de passer une journée sans me mettre en rogne contre quelqu'un, sans juger celui-ci, sans être jaloux de celle-ci. Pas moi, Seigneur, tu trouveras quelqu'un d'autre pour la lecture aujourd'hui. Hein ?» Non, le Seigneur ne trouvera pas quelqu'un d'autre. Il vous choisit chacune, chacun de vous, comme vous êtes. Il choisit notre humanité imparfaite. C'est ce qu'il a choisi pour son Fils. Et c'est notre gloire que d'être faible et incompétent. Et ça, dans notre société d'aujourd'hui, il faut peut-être le redire. La faiblesse et l'incompétence, c'est ce que Dieu a choisi. Il ne nous demande que trois choses. Vous les avez réentendues dans l'Évangile. Trois choses dont nous sommes tous capables, même les plus petits d'entre nous. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, suivez-moi. Ce sont les trois choses qu'il nous demande. C'est tout. Il ne nous demande pas de faire des miracles. Convertissez-vous. En grec, ça veut dire se retourner. C'est pas compliqué. Tout le monde sait se retourner. Vous étiez en train de partir. Eh bien, retournez-vous. Revenez vers Dieu. Vous aviez autre chose à faire ce matin, mais non. Vous êtes venu ici, dans cette chapelle. C'est ça, se convertir, se retourner, tout simplement. Croyez à l'Évangile. L'Évangile, en grec, ça veut dire la bonne nouvelle. Croyez que là-haut, il y a une vie près de moi, que rien ne se termine ici. Croyez que le monde peut aller mieux si on applique le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, plutôt que d'appliquer des critères débiles de l'économie jusque dans le choix de vos collaborateurs. Si on applique le critère de l'amour, évidemment, ça change tout dans une entreprise. Et trois, venez à ma suite, suivez-moi. Venez dans ma chapelle aujourd'hui pour me prier, célébrer. Suivez-moi dans votre vie de tous les jours. Essayez de faire le bien autour de vous, aimez-vous les uns les autres. Tout le monde en est capable. Pas besoin d'avoir de grands diplômes pour cela. Vous voyez, c'est tout simple, chers amis. Dieu ne nous demande pas des miracles, il nous choisit chacune, chacun de nous, justement parce que nous ne sommes pas des gens parfaits, mais parce que de toutes nos imperfections, lui, il peut faire des miracles. Si nous nous retournons, si nous croyons à sa bonne nouvelle, si nous le suivons.